Mes chers amis, retrouvez donc notre sœur Aï dans son émission « Racontez-moi Dieu dans votre vie ». Elle aura pour invité Jérôme Lee. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée avec notre sœur Aï sur Radio Maria Nontehao.
Auditrice, auditeur, bonjour. Bienvenue à notre émission « Racontez-moi Dieu dans votre vie ». Aujourd'hui, nous avons un invité qui est de Faouné et qui s'appelle Jérôme Lee. Bonjour Jérôme.
Yorana.
Yorana à tout le monde. Donc voilà, on t'a invité parce que je connais ton parcours et il est particulièrement intéressant. Pour nous tous et peut-être plus particulièrement pour les jeunes, car tu es un jeune. Donc voilà, je voudrais déjà que tu nous racontes ton enfance.
Oui, alors d'abord encore, je voudrais saluer tous les auditeurs, auditrices qui sont connectés avec nous ce matin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Alors voilà, donc je me présente, Jérôme Lee. Donc je suis né en Calédonie. Donc, j'ai quitté la Calédonie à l'âge de 10 ans. Il faut savoir que lorsque j'étais en Calédonie, donc, je vivais avec mes parents adoptifs. Mes parents étaient commerçants à Thio. Donc, Thio, c'est une province qui se situe en dehors de la ville de la Calédonie. C'est un endroit un peu perdu, comme Faouné un peu, voilà, comme ça. Et donc, mes parents, ils étaient commerçants, donc je vivais là-bas avec mes parents. Et jusqu'à que, quand il y a eu les émeutes en 84, qui a fait que j'ai dû quitter la Calédonie pour venir ici, en Polynésie, parce que mes parents, leur magasin, un soir, je me suis réveillé, j'étais sur l'épaule de mon papa. Je voyais mon père courir, puis je disais à mon papa, mais pourquoi tu cours, qu'est-ce qui se passe? J'étais en plein sommeil, je me suis réveillé de mon sommeil, et puis il m'a dit, fils, voilà, le magasin il a brûlé, et je voyais des flammes, et puis les flammes ont commencé à tomber, tout le magasin a commencé à s'effondrer, ma mère qui a commencé à crier, les habitants, les voisins, à côté, ils sont venus nous aider et tout. Ma mère, elle ne savait plus comment faire. La gendarmerie était arrivée, en fait, quand on a tout perdu. Donc, on a dû, après, être logé chez mes vrais parents, à savoir que mes vrais parents biologiques sont toujours en Calédonie. Ils vivent en Calédonie. Oui. Donc, on a dû habiter chez eux. Ce qui veut dire aussi, par rapport à ma période de scolarité, ça s'est beaucoup interrompu. Je n'y allais plus à l'école. Donc, depuis que le magasin a brûlé, depuis qu'on a habité avec mes parents biologiques en Nouvelle-Calédonie, parce que mes parents biologiques, ils avaient un appartement sur Nouméa, en plein centre-ville, donc j'ai pas pu aller à l'école. Ça fait quoi, 2 ans en Calédonie, j'ai pas pu aller à l'école. Et après, quand je suis venu ici, j'ai dû attendre encore 1 an et après, j'ai dû reprendre l'école, ok? Donc, j'ai dû reprendre l'école, mais c'était beaucoup de retard. Parce que, avec mon âge, en 10 ans, en 12 ans, donc j'ai dû rattraper le retard. Avec beaucoup de difficultés, quoi.
Donc, vous êtes rentré à Tahiti?
Nous sommes rentrés à Tahiti, ici en Polynésie. Donc, et après, mes parents encore ont dû recontinuer à faire du commerce. Mm-hmm. Enfin, du commerce. Ils avaient un snack du côté de Mututa.
D'accord.
C'est là que... Voilà, donc ils avaient pris un snack. Finalement, ma mère... donc ma mère, elle est chinoise.
Oui.
Okay? Mon papa, il est marquisien. D'accord. Je parle de mes parents encore biologiques.
Oui.
Donc ma mère, elle est chinoise. Elle ne savait ni lire ni écrire. Ce qui veut dire la propriétaire du snack que mes parents géraient, elle a dû faire signer un papier à ma maman qui a fait que par la suite, c'était pour nous expulser, pour aller dehors.
Ah, oui.
Donc c'est par là après que mes parents, on est passé en justice, On est passé devant les avocats, c'était des années au tribunal.
Elle s'est fait un peu rouler.
Rouler, ouais. Exactement, voilà le thème. Elle s'est fait rouler, donc mes parents ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mmh. Donc en Calédonie, mes parents, on allait à l'église protestante. Moi, j'ai allé à l'église protestante. Le pasteur, il m'aimait me voir à l'église protestante parce que j'étais devant. J'étais un bébé. Bon, oui. J'étais bien gros, bien les joues. Enfin, c'est ma mère qui me racontait. Oui. Hein. Donc, elle me disait, le pasteur protestant, il aimait te voir parce que tu étais toujours bien habillé à côté de moi et de ton papa et tout. Donc, et quand on descendait, parce que le mercredi, quand je finissais l'école à 11h30 en Calédonie, tous les mercredis, moi et mes parents, on fermait le magasin et on descendait de Thio pour aller à Nouméa pour faire les commissions, pour approvisionner le magasin. Et on faisait des kilomètres, parce que c'est des centaines, c'est beaucoup de kilomètres à faire. Hein. Et, du côté de ma maman, toujours de ma maman adoptive, la plupart de sa famille fréquentait les églises. En Calédonie, on disait ça, les églises viennent et voient, dites pentecôtistes, que l'on appelle ici les assemblées de Dieu.
Oui.
Et de temps en temps, on y allait avec les frères et sœurs, mes tatis, mes tontons, les frères et sœurs de ma maman adoptive. Donc on fréquentait les églises pentecôtistes, protestants, pentecôtistes, on faisait ça, protestants, pentecôtistes. Et puis, c'est quand on est venu ici, on a cherché cette église-là. Mm-hmm. Les églises viennent et voient. Donc, c'est pas là qu'on a su qu'il y avait une du côté de Titioro.
Oui.
Donc, je pense que tu dois voir. Hein.
Oui.
Donc, c'est pas là. Par la suite, après, on a dû fréquenter cette église. Mes parents se sont baptisés là. Voilà. Donc, voilà un peu le truc. Quoi, hein.
Mm-hmm. Oui. Oui. Et donc, à ce moment-là, tu étais fidèle à l'église parce que tu y allais avec tes parents?
Oui, j'allais avec mes parents. Donc, j'étais petit, j'allais avec mes parents. J'allais au club du samedi. Nous, c'était pas le ici, on dit le Happy Ratapati. Chez nous, c'était le samedi.
Samedi, oui.
Tu vois, c'était le club du samedi. On apprenait à lire la Bible. On apprenait à prier, on avait des moniteurs, monitrices, on avait des versets à apprendre, on avait des chants, chorégraphies, j'étais avec tous ces jeunes-là, tu vois. Donc, j'étais un peu très timide aussi, hein, dans ma jeunesse à moi. En tant que jeune, j'étais un peu très, très timide. Mes parents me parlaient beaucoup du Seigneur. Donc j'allais à l'église avec mes parents le dimanche, le samedi, club du samedi. Eh bien, jusqu'à après arriver à un certain âge, à l'âge de, on va dire 16-17 ans, les choses ont commencé un peu à changer. C'est-à-dire, quand tu commences à fréquenter d'autres jeunes, tu te mets après à faire ce que ces jeunes font, c'est-à-dire... l'alcool, la drogue, toutes ces choses-là, j'ai commencé après un peu à dévier. Et là,
l'église, tu y allais toujours?
J'y allais. mais c'était plus comme avant, quoi. C'était plus comme avant. Je voulais un peu être le patron, en quelque sorte, de ma propre vie. Je me suis dit, je vais faire le capitaine de ma vie. Donc, je plantais le pacalolo. On va dire ça les choses clairement. Planter le pacalolo, mes parents, encore, ils étaient commerçants. On avait un magasin du côté de Papara, à la carrière. Et moi, j'avais un espèce de... Comment on appelle ça je suis un contreplaqué. J'avais plein de plantes de pacalolo.
Et ils ne savaient pas ce que c'était, tes parents?
Si, ils savaient. Ils savaient, bien sûr, ils savaient. Et puis, moi, j'avais mes plantes de pacalolo. À l'école, je prenais mon sac. Je mettais mon paca dedans l'école, dans mon sac, et direction à l'école. Et un jour, je me suis fait avoir à l'école. Oui, je me suis dit, peut-être là, ça y est, c'est fini, Jérôme, tu vas faire la prison. En fin de compte, c'était un après-midi, j'étais avec un ami, On a tellement fumé, on s'est marré, on s'est caché dans les outils. Ouais. On est bien caché dans les outils, on s'est dit, il n'y a personne qui va nous voir, allez, on y va. Paf, on a commencé à fumer, on est complètement stone. Et à un moment donné, je regarde, je vois un homme qui me regarde, un Chinois petit, et qui me fait, venez ici tous les deux. J'ai dit, attends, c'est qui celui-là? En fin de compte, c'était notre prof de cuisine.
Ah, oui.
Voilà, de cuisine. Et je suis sorti, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Il a vu que j'avais une pipette et tout. Bon, j'avais encore de l'herbe dans ma poche, j'ai dû jeter et tout. Il m'a dit, ok, tu me donnes ça, hein, ta pipette et tout, vous serez convoqué. Allez, vous allez rentrer en classe. Alors, je suis rentré en classe et dans ma tête, je me suis dit, Jérôme, bon, ma maman, elle est un peu triste et vert quand même. Hein. Alors, elle m'a dit, je me suis dit, à l'intérieur de moi-même, je me suis dit, ok, ça y est, je me suis fait choper par le professeur. Je vais être convoqué. C'est sûr, tu vas faire de la prison. Je vais rentrer, comme l'école, ça commençait à 7h30, on finissait à 15h30. J'ai dit, Jérôme, quand tu vas rentrer... J'avais toute une scène devant moi. Je me suis dit, quand ma mère, elle va m'accueillir, c'est avec un gros balai. Là, elle va bien te taper. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Tu vas en ramasser. Là, la direction de l'école va appeler mes parents. Mes parents vont arriver, vont tout expliquer. Nanana. Je me suis fait un film. Hein. J'avais eu peur. Non, c'est vrai. Mmh. Alors, je travaillais, mais là-dedans, mon cœur, en fin de compte, ils n'ont pas appelé les flics. Le prof n'a pas appelé les flics, n'ont pas avisé mes parents. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Parce que, après que je me suis fait choper à l'école, les autres camarades que j'avais, ils se sont fait aussi choper. Mais là, c'était les flics. Hein. Ils sont venus à l'école en fourgon, gendarmerie. C'était des pieds de paca dans le...
Et toi, rien.
Ah non, moi, j'ai rien. Mais moi, je pensais que... La directrice, ça y est, elle a mis au courant mes parents. Dès que je vais arriver à la maison, les flics vont arriver, vont débarquer. J'ai eu la chance.
Oui.
Je n'ai pas été interpellé par les flics. Il n'y a pas eu les mouteilles qui sont venues à la maison. Et mes parents n'ont pas été avisés. Mais je veux dire quelque chose. Merci Seigneur, parce que je n'étais pas tout à fait accro à la drogue. Mmh. À un moment donné, je me suis arrêté. Mmh. La drogue...
Tu n'en voulais plus.
Non, je ne voulais plus. Hein. Et même les jeunes qui étaient avec moi dans ma classe, il y a même une fois, il y a un jeune qui m'a dit, « Jérôme, dis donc, tu ne fumes plus alors ?» J'ai dit, « Non, je ne fume plus. Plus rien. »« Non, je ne fume plus. » Il m'a dit, « C'est bien. » Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais... J'ai arrêté... Voilà. J'ai arrêté la drogue. Ça s'est arrêté petit à petit. Par contre, je continuais à boire. Je continuais à sortir. On allait en boum. Parce qu'à cette époque-là, on aimait aller à la boum. Hein. Ouais. C'était notre temps mode, à nous. Hein. Ouais. Tu vois, tu avais des gros Bermudas, là. Tu sortais, on aimait écouter des chants de rap comme Valina Ice. Ice, Ice, Baby. Tu vois, des chants comme ça. On allait faire des concours de danse, de rap, à Farioute.
Oui.
C'était à Farioute, on aimait bien là-bas. Alors moi, avec un copain qui lui aussi allait à l'église avec moi, ok. Alors quand on sortait, c'est ça la chose. Quand on sortait, par exemple, le vendredi, le samedi, d'abord, il fallait convaincre maman. Tu vois, il fallait convaincre maman pour dire, je vais sortir. Alors dès que tu dis ça à ma mère elle me dit, oui, mais tu sais l'heure, hein? Tu reviens à telle heure. Parce que si tu ne reviens pas à telle heure, tu vas te ramasser. Voilà. Alors, je dis OK. Et puis, les booms, c'était de 20h jusqu'à 4h du matin. Alors, je sortais avec mon collègue, un copain à moi, que j'aime beaucoup. Et puis, à chaque fois qu'on sortait, on priait.
Oui.
Et même une fois, je n'ai même pas prié.
C'est celui qui allait à l'église aussi.
Oui, voilà. Hein, je dis, viens, on va prier. Et une fois, c'est pas que je voulais pas prier, j'ai même plus pensé. Il m'a dit, et la prière alors? Alors on priait et puis on sortait, on allait en boum, on allait faire la fiesta, on allait danser et tout. Mais après, c'est le retour. Moi, je parle pour ma maman. Parce que quand je rentrais à la maison, je voyais toutes les lumières de la maison qui étaient éclairées. Maman, elle ne dormait pas.
Oui.
Elle est traînée dans la maison et puis
elle
tu entendais.
Que tu rentres.
Il me dit, j'entendais ma mère, eh ben, celui-là, il est 4 heures du matin, il n'a pas encore franchi la porte. Alors, pour rentrer chez moi, par la cuisine, donc il y a la porte, il y a un petit espace. Je me suis dit, dès qu'elle va rentrer, je ne sais pas, bon, quelque part, je vais essayer de grimper, de monter comme ça. Voilà. Ben, finalement, elle m'a chopé, quoi. Elle m'a dit, bon, elle me voyait rentrer comme ça. Elle me dit, d'où tu viens? Je dis, je viens, ben voilà, je viens d'arriver, quoi. Non, mais tu m'avais dit que c'était minuit, 10 heures, mais là, il est 4 heures du matin. Alors, elle m'a dit, écoute, mon fils, demain matin, c'est pourrira, hein. T'as pas intérêt à dormir, hein, parce que sinon, c'est la ceinture que tu vas ramasser, hein. Ah oui, mes parents, ils étaient terrés aussi, hein. Alors, j'ai pas intérêt à aller à l'église, et puis, tu vois, t'as la tête qui, à cause des effets de la nuit, parce que j'arrivais à 4 heures du matin et que j'avais pas bien récupéré, voilà. J'avais pas bien récupéré. Alors, ma mère, elle me surveillait, elle me dit, et dès que je faisais un peu comme ça, elle me fait, fallait suivre ce que le serviteur de Dieu disait, quoi. Hein. Ouais, voilà, donc, voilà. Mais je bénis Dieu. Je sais que ma maman a beaucoup prié pour moi.
Il t'a protégé et te préparé.
Voilà.
Déjà.
Et ma mère, elle m'a toujours dit, mon fils, malgré tout ce que tu as fait, je me suis toujours tenu devant Dieu pour prier pour toi. Mm-hmm. Moi, je crois que la prière d'une mère et des parents, c'est très important. Parce que si je suis venu à Christ, si le Seigneur m'a protégé, c'est grâce à mes parents qui ont prié pour moi. Et je sais qu'ils se sont tenus devant le Seigneur et qu'ils ont beaucoup pleuré. Et qu'ils ont beaucoup prié pour moi. De toute façon, c'est ce que ma mère à moi me disait. Elle me le disait ouvertement, Jérôme, j'ai prié beaucoup pour toi. Elle priait beaucoup. Mmh. Voilà.
Oui, je pense aussi que derrière tout converti, il y a eu quelqu'un qui s'est tenu devant Dieu pour prier. On va faire une petite pause musicale et on revient dans une minute. Revenons donc à ton enfance, mais tout de suite, tu as fini dans l'adolescence. Donc maintenant, on va parler de ta jeunesse. Est-ce que c'est pendant cette jeunesse que tu as rencontré le Seigneur, que tu as été converti? Donc à toi, la parole est à toi.
Oui, alors comme je l'ai dit au tout début, donc j'ai touché à la drogue, à l'alcool. J'étais aussi quelqu'un qui aimait le sport. À un moment donné, moi, mon Dieu à moi, c'était le sport.
Voilà. Ah oui.
Alors, le dimanche, j'aimais aller courir, l'athlétisme. Mm. Tu vois, j'aimais faire la course à pied. Et donc, j'allais presque plus à l'église. Hein. Moi, mon Dieu, le dimanche, c'est la course à pied. Puisque la course à pied, ça se faisait le dimanche et le samedi. Mm. Et donc,
Tu veux dire les compétitions?
Compétitions de course à pied, c'était le dimanche et le samedi. Donc, l'église, terminée. Je n'y allais plus à l'église j'ai mis ça en premier. Le sport, c'était mon Dieu. J'aimais courir, j'aimais courir, mais je voudrais dire ceci, c'est que à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, mais j'ai touché à la drogue, j'ai touché à l'alcool, j'ai sorti en boîte de nuit, les filles, le sport, mais ça m'a donné quoi? Ça n'a rien donné. En fin de compte, ça n'a rien donné du tout. Et c'est là, après, par la suite, que je me suis aperçu qu'il y avait un vide dans mon cœur. Tu vois, il y a un vide dans mon cœur. Malgré que je n'allais plus à l'église, malgré que je fréquentais des filles, j'allais en boîte de nuit, j'allais à des soirées de boum, des choses comme ça, je trouvais que ces choses-là, ben, ça apportait pas la paix dans mon cœur, tu vois. Mon cœur était vide. Mm. J'étais quelqu'un de très triste aussi.
Ah oui.
Tu voyais, je voyais il y a beaucoup de la tristesse.
Tu étais marqué aussi peut-être par les événements
ah, ça
de
aussi,
ton enfance.
Il y a aussi ça, marqué par les événements lors de mon enfance. Et puis, puis aussi par les paroles aussi qu'on m'a dites sur ma vie aussi. Telles que tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas, tu es bon à rien, tu as raté ta vie, c'est l'échec total, tu vois. Donc ces paroles-là, ça m'a fait beaucoup de mal. Il y a eu aussi dans mon cœur une certaine souffrance, quoi. Et donc, par la suite, je me suis dit, non, avec tout ce que j'ai fait, ben, ça n'apporte pas le bonheur. J'ai dû revenir au Seigneur, ok ? J'ai dû revenir au Seigneur. Donc, je suis retourné à l'église avec mes parents. Hein. J'ai dit, Seigneur, non, je désire te rencontrer, que tu puisses venir combler le vide dans mon cœur, que tu puisses m'amener cette paix. Voilà, parce que je sentais à l'intérieur dans mon cœur que c'était pas du tout ça. Alors,
il n'y avait pas la paix.
Il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas la paix. Il n'y avait aucune paix. Je voyais que ça n'avançait pas. Tu tournes en rond.
C'est ça.
Hein, on va dire les choses. Hein. Oui. Tu es en train de tourner en rond et puis il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. Ça n'a pas donné un sens. Il n'y a pas de sens. Et donc, j'ai dit non, la seule solution, il fallait que je revienne au Seigneur. Donc, j'ai repris petit à petit le cours du chemin, c'est-à-dire je suis revenu avec mes parents pour aller à l'église.
Oui. Hein,
aller à l'église, et puis il a fallu que j'écoute la parole de Dieu aussi. Mm. Et quand j'ai écouté la parole de Dieu, je sais qu'au fond de mon cœur, il y a quelque chose qui travaillait dans le cœur,
oh, oui.
dans mon cœur. Mm. Hein. Et après, ben, j'ai fait un camp de jeunesse.
Oui.
Voilà. Hein. Il y avait un camp de jeunesse. J'ai fait quoi en tant que jeune? Je crois que j'en ai fait deux, trois camps de jeunesse. Mais la troisième, alors, c'est un camp de jeunesse qui a déjà débuté. Et j'ai entendu ce camp de jeunesse parce que c'est un camp de jeunesse qui n'est pas tout à fait comme les autres camps. C'est-à-dire, il y a des jeunes, mais qui vont évangéliser.
Ah oui.
Hein, qui vont aller dans les îles pour évangéliser. Et puis, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais aller à ce camp. Mais le camp, il a déjà commencé.
Mm.
Alors, j'ai appris par la suite, ah oui, mais tu ne peux pas aller à ce camp parce que tu vois, tu vas, non, c'est pas possible, ça a déjà démarré. Alors, comme je disais, j'habitais à la carrière. Je pris mon vélo, j'ai dit, Seigneur, si je permets que je vois la responsable de ce camp, et si je vois la responsable, permets qu'elle puisse m'accepter d'aller à ce camp. Alors, oui. Je prends mon vélo. Ouais. Je roule en vélo, je descends de la carrière, je vais à Baby Burger.
Ouais.
J'arrive à Baby Burger, je vois la responsable du camp, parce que le camp c'était à Papéari, CJA de Papéari, c'était là-bas le camp. Hein. Mm. Et puis je discute avec elle, j'ai dit, hey, j'aimerais bien aller à ce camp. Alors au départ, elle n'était pas trop chaud et tout. Alors j'ai dit, non, je veux aller à ce camp. Parce que quand même, elle me connaissait, j'étais un sacré coco, on va dire ça comme ça, hein. Elle me connaissait un peu, voilà. Et puis, elle m'a dit, bon, ok, Jérôme, alors tu viens jeudi, tu vas au camp CJA de Papéari, tu te présentes là-bas, 7h30 du matin, tu viens là-bas. J'ai dit, ok. Et puis, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que j'ai demandé au Seigneur.
Eh ben, oui.
J'ai dit, Seigneur, je veux aller à ce camp, hein. Tu me fais rencontrer la responsable. Et j'ai rencontré la responsable. Elle était à Baby Burger. Je suis arrivé en vélo. Elle m'a dit, ok, ben, tu viens alors au camp. Je suis allé au camp. J'étais tout content, mes affaires et tout. Je suis arrivé à ce camp. Il y avait plein de jeunes. Ok, je commence à fréquenter les jeunes et tout. Je me suis installé et tout. On m'a montré mon lit et tout ça, ok. Et puis, j'avais faim. Alors, tu vois, 11h30, j'ai dit, ça y est, c'est l'heure de manger. Mon collègue à côté, là, qui me dit, non, Jérôme, c'est l'heure de jeûner. J'ai dit, quoi? On va jeûner. J'ai dit, jeûner? C'est quoi? Non, sans blague. J'ai dit, on va être vrai. À l'intérieur de moi, j'ai dit, Seigneur, je ne dois pas venir aujourd'hui, je dois venir un autre jour. C'est un jeudi, hein? On a jeûné, hein? Alors, on était dans le, comment on appelle ça? Dans la cantine du CJA de Papéari. Tous les jeunes étaient là. On a commencé à louer, prier. Moi, j'avais le ventre qui tournait, tu vois, quand tu ne manges pas. ça tourne, et gargouille. Après tu vois défiler devant toi des chips, du poulet rôti, de la nourriture. Je me suis dit, bon, comme le magasin, c'est pas loin, bon, je sais pas combien de kilomètres, voilà. Je me suis dit, je vais faire un petit chape, comme la responsable, elle est pas là. Et comme tous les responsables sont là en train de prier, de jeûner, ben moi je vais chape. Et puis je vais aller chercher la nourriture avant que le magasin ferme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne suis pas parti. Je suis resté sur ma chaise. Alors, on était en train de louer, de prier et tout, je ne suis pas parti. À un moment donné, l'autre qui était à côté de moi, un autre jeune, il me fait du doigt, il me fait « Hey, en fin de compte, j'étais sur ma chaise, à côté de moi il y a un jeune, et l'autre jeune, le troisième jeune me dit, me fait signe, hey, celui qui est entre nous deux, là, il pleure, commence à pleurer. Alors moi, je dis, pourquoi tu me dis à moi? Moi, je ne sais pas, moi, pourquoi il pleure. Va voir le pasteur. Il m'a dit, mais non, il pleure. Alors le gars, là, il se lève, il sort, il revient, il pleure. À un moment donné, il s'est levé, il retourne dehors. Je parle de celui qui pleure.
Oui.
Dehors, il va dans les toilettes et là, j'entends. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. En fin de compte, le gars, il était démonisé.
Oui.
Okay? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est Jésus qui l'a dit. Ce sort de démon sort par le jeûne et la prière. Et bien, ce jour-là, on a jeûné. Il y a eu une manifestation démoniaque. Un jeune, je crois qu'il a touché à la sorcellerie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait et tout. Eh ben, il est allé dans les toilettes. Il pleurait, il est allé dans les toilettes. Il a commencé à casser les toilettes. J'ai vu la responsable arriver. Elle court dans les toilettes. Elle ressort. Elle va chercher 4 hommes, mais alors bien costaud. Moi, j'avais le cœur qui battait. J'ai entendu démon. Alors moi, j'ai le cœur qui bat, je me suis dit, un démon, mon Dieu, s'il va venir, il va m'agresser, je ne sais pas comment je fais. Parce que c'est la première fois que je vis ces choses.
Oui, oui.
Tu vois, c'est la première fois, je ne savais pas, je ne connaissais pas ces choses-là. Alors j'ai le cœur qui bat, j'ai dit, un démon, mais qu'est-ce... Alors j'entends l'autre qui pleure, l'autre qui crie et tout. Alors j'ai dit...
Ah, parce qu'il y avait d'autres enfants aussi qui commençaient, enfin d'autres jeunes qui commençaient
oui, mais
à
manifester. Il criait, il pleurait, ben voilà, il suppliait le Seigneur d'intervenir pour ce jeune. Et le pasteur, on avait un pasteur petit chinois là. Et puis il se levait, il allait dans les toilettes. Et le jeune, il était maintenu par... Alors je te dis, le jeune là, il a fallu 7 personnes pour le maintenir. Sept, mais alors, voilà, 7 bien costauds pour le maintenir quoi. Et j'entendais le pasteur dire à ce jeune, au nom de Jésus, donne-moi ton nom. J'ai entendu le jeune dire, je m'appelle... Lucifer, alors là, j'ai dit, non, là, c'est pas vrai. J'ai dit, mon cœur, il a commencé à battre. Parce que dans ma tête, je me suis dit, s'il va venir là, moi, je ne sais pas comment je vais réagir. Oui. Il va m'agresser. Il va, voilà, je ne sais pas. Merci Seigneur. On a dû prier pendant, 5 heures, 6 heures de combat avec ce jeune. Finalement, l'ennemi a lâché prise. Ce jeune est revenu à lui-même. Le démon a été chassé. Mais ça a été un moment de combat. Et là, j'ai appris qu'il y avait des démons qui existent envers des personnes. Donc, c'était ma première expérience. Donc, je suis allé à ce camp. Et c'est par là aussi, au travers de ce camp, quand on est allé évangéliser, parce que ce camp avait pour but de nous préparer pour aller sur l'île de Bora Bora et d'aller évangéliser à Bora Bora. C'est-à-dire qu'on avait nos vélos, on faisait le tour de l'île de Bora Bora et puis on faisait la nuit des prestations, où on invitait les gens pour pouvoir entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Mais on a vécu vraiment des choses extraordinaires à Bora. Moi je me rappelle, on était sur la grande place là, au centre-ville, là, comment ça s'appelle ?
Veitapé.
On a fait une soirée. On a fait une chorégraphie. Le chant, c'était « Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent. » Et là, la pluie a commencé à descendre. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'était Il y avait une pluie qui est descendue comme ça. Mais pas des grosses gouttes de pluie, petites, tu vois. Dès qu'on a commencé à danser sur ce chant, vient Saint-Esprit, la pluie est venue. J'ai vu des gens pleurer quand on a commencé à danser. On ne le faisait pas pour nous, on le faisait pour la gloire de Dieu, pour l'amour de Dieu. On se préparait à faire des chorégraphies et la nuit, le soir, on invitait les gens, les gens là où on était hébergés, parce qu'on était hébergés dans les écoles. Et les gens qui étaient là, on les invitait à venir, à entendre l'évangile. Il y avait un serviteur de Dieu, après nos prestations, qui prêchait la parole de Dieu, qui annonçait le nom de Jésus, qui disait aux gens, Jésus est vivant, Jésus guérit, Jésus sauve. Donc il y avait des gens qui ont été touchés. Moi, j'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens vraiment être guéris, être touchés par la présence du Seigneur. Oui. Donc voilà.
Oui. Tu m'as dit... une fois au cours de notre conversation, qu'il y a aussi un autre pasteur qui a joué un rôle décisif. Attends, je vérifie quand même l'horaire. Tu vas brièvement introduire. Je pense qu'on va avoir une pause musicale là tout de suite.
Oui, 97. Il y avait un serviteur de Dieu qui est venu ici en Polynésie. Alors là, ça a bardé. Il est venu. À une réunion de jeunesse.
Il venait de Hawaï.
Il venait de Hawaï, exactement. Réunion de jeunesse. Et puis, il donnait des paroles de connaissance comme ça sur les gens. Tu vois, il pouvait lire dans la vie des gens, tu vois. Et il est venu à Travant, du côté de Travant. Et puis, j'ai vu l'action du Saint-Esprit. Je dis bien, l'action du Saint-Esprit venir. Les gens ont commencé à tomber dans le repos. Paf. Oui. Les gens ont été guéris. J'ai vu même une dame qui a dit... Jésus m'a guéri, alléluia. Jésus, elle avait des problèmes dans son corps et le Seigneur l'a visité. Jésus l'a guéri. Jésus a utilisé ce serviteur de Dieu pour pouvoir manifester sa puissance. Moi, j'étais encore jeune, alors je ne comprenais pas les gens qui tombaient parce qu'après, je rentrais à la maison, j'allais chercher dans la Bible, tu vois, j'étais un peu encore très carré dans mon petit truc à moi. Je dis, ça existe, ce genre de choses. Tu vois, j'ai essayé de voir si ce qui se passe là, c'est bien aligné à la parole de Dieu. Mais je ne comprenais pas. Au fur et à mesure, j'ai compris que c'était le repos de l'esprit. Je ne comprenais pas pourquoi les gens tombaient. Mais ils tombaient dans le repos de l'esprit parce que c'est l'esprit de Dieu qui agissait envers ces gens. Et les cultes, quand ce serviteur de Dieu est arrivé, ça commençait de 11h, on finissait presque à minuit.
Oui.
À minuit.
Ah, oui.
Moi, j'avais un oncle, il prêche, mon oncle, il s'est levé, il est parti devant l'estrade, il s'est agenouillé. Et là, l'Esprit de Dieu a commencé à venir et les gens ont commencé à tomber. Je suis tombé par terre. Il est venu vers moi et il m'a dit, tu sais que l'Esprit de Dieu est sur toi? Je lui ai dit, l'Esprit de Dieu, c'est quoi ce truc-là? Il m'a posé les mains. Non, mais parce que je ne connaissais pas. Il a mis sa main sur moi. Il m'a dit, le Saint-Esprit, Holy Spirit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est sur toi. Et voilà, donc ça a débuté comme ça. Et voilà, j'ai vu la main de Dieu agir.
Oui, j'ai participé à quelques-unes de ces réunions. Toute l'église était par terre, dans le repos. Tout le monde.
Ouais.
Il passait devant, tout le monde tombait.
Ah oui, c'était un homme de réveil. Dieu l'a utilisé pour un réveil. D'où après, j'étais allé en 97 encore, j'étais allé à un festival de louanges, Fidji. Alors là, on était au stadium de Fidji souvent. Donc soirée de louanges. Alors là, j'ai vu un prédicateur nouvelle-zélandais, boucle d'oreille, cheveux longs. Je me suis dit, Seigneur, ça existe ce genre de... Mais il y avait telle onction. Quand il faisait l'appel, il dit, alors, vous voulez recevoir Jésus? Qu'est-ce que vous attendez? Courez! Mais nous, on était sur l'estrade. On est descendu. On a couru. On n'est même pas arrivé à l'estrade. On est tombé à la renverse. Tout ce qui était dans l'estrade, l'Esprit de Dieu est venu. Tout le monde s'est mis par terre. Tout le monde.
On va interrompre et on reviendra.
Car mon bonheur, c'est que toi.
Donc, Jérôme, on va te laisser continuer à parler de ce que tu disais là.
Oui, je disais, hein, j'étais à un festival de louanges à Fidji.
Voilà.
Donc, on était arrivé à Fidji vers midi, à l'aéroport de Nandi. On est arrivé à l'hôtel, tu te rends compte, 20h du soir. Oui. Midi, 20h du soir.
Pour arriver à Nandi.
Oui, à arriver à notre hôtel, à notre lieu d'hébergement. 20h du soir.
Mais ton lieu d'hébergement était où? À Suva, alors?
C'était à Suva, un hôtel Santen Cross. Mm. On a le nom de l'hôtel. Mais midi de l'après-midi, et on est arrivé 20h du soir, on était fatigué, on a dû rouler. Et puis, le dimanche, il fallait aller à l'église. Alors moi, je pensais le dimanche pour aller à l'église, il fallait faire des kilomètres. Non, l'église, c'est dans une boîte de nuit, église. Non, c'est vrai, c'est église. Le soir, boîte de nuit, mais la journée, église.
Ah, ouais.
Ah mais je vais vous dire, hein, je te dis frère, pardon, ma soeur. Oui, boîte de nuit, il y avait des gens, des chrétiens qui venaient, qui célébraient le Seigneur. Il y avait des réunions là, dans cette boîte de nuit. C'était pas loin de notre hôtel. C'était juste en dessous. Nos chambres, c'est en haut. Tu descends, tu sors. Il y avait la boîte de nuit à côté. Mais il y avait une telle présence du Seigneur. Tu vois la présence de Dieu, comme dans la Bible, quand ça vient, il y a un poids. Mm-hmm. Il y a un poids.
Oui.
Je sentais, c'était lourd.
Oui.
Il y a un poids. Vraiment,
ça te rend tout doux.
Voilà,
là.
Voilà. S'il y a un poids, il y avait un tel poids qui était là. Puis c'était des jeunes qui louaient le Seigneur avec zèle, avec ferveur. T'sais. Bon, c'était des Fidjiens, je sais pas. Ouais, certainement. C'était des Fidjiens, ils louaient le Seigneur, ils glorifiaient le Seigneur. Moi, je me suis dit, ben alors, c'est ça l'église. Oh là, ça m'a changé dans ma compréhension des choses. Mm. Tu vois? Et puis la nuit, on allait au stadium de Suva.
Ah oui.
Et là, festival de louanges, il y avait différents orateurs qui venaient.
Il devait y avoir du monde alors.
Il y avait beaucoup de personnes, et puis même les îles, Salomon, Vanuatu, Niue, la Polynésie. On était tous là, chacun a apporté une prestation en l'honneur de notre Seigneur. Mais il y avait des manifestations de la gloire de Dieu, où Dieu vraiment guérissait, où Dieu opérait sa grâce dans les vies, dans les cœurs, où vraiment il y avait des jeunes quand ils dansaient pour la gloire de Dieu. Tu voyais au travers des gestes qu'ils faisaient, c'était pas à peu près, c'était à 100%, tu vois. Même les jeunes, ils n'avaient pas honte de pleurer. Ils pleuraient, ils criaient Jésus, 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 Saint-Esprit, Jésus. Et il y avait une telle gloire qui était venu tous les soirs, c'était quelque chose de différent qui était venu. Et là, j'ai vu quand j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu, je dirais, peut-être c'est les débuts, peut-être c'est les prémices, mais j'ai vu quand même la gloire de
la
Dieu
présence,
se manifeste, la présence de Dieu.
Oui.
Hein. Déjà dans cette boîte de nuit, c'était une boîte de nuit. Hein. Mm. Là-dedans, le dimanche, hein, le pasteur dit, allez, on va aller à côté. Je dis, à côté, c'est quoi ça, à côté? Je regarde, boîte de nuit. Je dis, tout était préparé, toutes les chaises, il y avait déjà les chantres qui étaient là, les meneurs de louanges, ils étaient là, et on a commencé à louer le Seigneur, mais il y avait une telle présence de la gloire de Dieu. Tu sentais qu'il y avait un poids qui était là, tu vois. Donc c'est ça. Ouais.
Oui. Et ensuite, là, on est dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais de différent pour vivre de telles choses?
Oui, alors c'est ça, c'est de rechercher le Seigneur, d'être toujours en relation avec lui, d'être en communion avec lui. En fait, ce que je voulais dire, Dieu a changé ma façon de voir les choses. Parce que dans ma vie, au tout début de ma vie chrétienne, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, je voyais un Dieu dur, très dur, tu vois, rigide, qui voulait me punir, En fait, Dieu, il n'est pas comme ça, tu vois, c'est un Dieu bon, tu vois. Je n'ai jamais su que Dieu, c'était notre papa. Je n'ai jamais su que Dieu était un père. Et je voudrais remercier le Seigneur. C'est parce que aussi Dieu a mis sur mon chemin des personnes, des serviteurs de Dieu. Quand je les entendais prêcher, quand je discutais avec eux, ça a changé complètement ma manière, ma vision.
Oui.
Ça, c'est ça aussi. C'est quelle est l'image que tu portes envers ce Dieu-là? Moi, l'image que j'avais de lui, c'était un Dieu qui était distant. oui, comme... éloigné de moi. Oui. C'est comme si, si je devais recevoir quelque chose de lui, il va falloir que je fasse des choses. Beaucoup de choses pour atteindre un certain niveau, et là, je peux recevoir. Mais on fait ça. Non. Tu vois, Dieu, c'est un Dieu aimant qui veut juste avoir une relation avec toi. Donc ça, ça a changé ma, ma manière de voir les choses. Donc pour moi, c'est toujours d'être en relation avec le Seigneur et d'être à son écoute. Parce que je pense que c'est ça. C'est d'être toujours à l'écoute du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu... Je prie. Je demande toujours à Dieu. Je dis, Seigneur, voilà. Aujourd'hui, on est jeudi. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? OK? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que Dieu parle. Et la parole de Dieu déclare, mes brebis entendent ma voix. Donc, c'est important que nous entendons la voix du Seigneur. Le Seigneur peut nous appeler à faire plein de choses en cette journée. Des choses que tu t'imagines pas, qui ne sont pas préparées, et que, voilà, ben, il te fait passer par ces choses-là. Donc, oui, j'ai vécu pas mal d'expériences avec le Seigneur, des choses que Dieu m'a répondu dans ma vie, des prières que je lui ai demandées. Un exemple. Je vais raconter ce témoignage. Alors, une fois, eh ben, je vais à la prière. Je tiens à vous dire que quand je vois le téléphone et que c'est ma sœur, je le tiens un peu mon souffle. Parce que ma sœur, alors, hein, je me suis dit, Seigneur, j'espère que la maison, elle n'a pas tourné à la renverse. J'espère qu'il n'est pas arrivé quelque chose de grave. Et puis je décroche ce jour-là, ce soir-là, réunion de prière, type RUI. Et ma sœur qui me dit, mon frère, j'ai dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, papa, plus de télé. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Tellement qu'il a plus fort, eh bien, la parabole, elle a rendu l'âme. Et ma sœur qui me dit, mon frère, bon, comment on fait alors? J'ai dit, t'inquiète pas, ok. Alors, je me suis renseigné, hein, nouveau parabole, 15 000 francs. J'ai appelé le technicien, parce que chez nous, on habite en vallée, il faut venir régler la parabole. Oui, oui. 15 000 francs, le technicien. Je lui dis, je ne peux pas payer petit à petit. Tu vois, il fait un peu la tête. Mais oui, mais... Je dis, ok, j'ai compris, il faut tout payer, quoi. 15 000 plus 15 000, 30 000. Je vis sur l'argent de mon père, moi et ma soeur, 80 000. À la fin du mois, eh ben, il faut payer ceci, cela, cela, cela. On n'a presque plus rien. Hein? Voilà, on va dire les choses. Eh ben, je vais te dire, j'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai besoin de 30 000. J'ai dit, Seigneur, il est écrit dans ta parole. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est cette parole qui m'est revenue. Je priais pour ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de 30 000 pour mon papa qui a besoin que son parabole soit réparé et sa télé. Là, j'ai plus rien. J'ai presque plus rien. Je priais pour ça. Et le Seigneur m'a dit, m'a fait rappeler cette parole. Ne t'inquiète de rien, mon fils. Tu vois, Dieu parle. Moi, c'est dans ma tête, dans mes pensées. Ne t'inquiète pas. Je vais pourvoir à tes besoins. Alors, je prie, je prie. À un moment donné, je ne sais plus quoi dire au Seigneur. J'ai la bouche fermée. Je suis resté en silence. Et là, mon vigny a commencé à sonner. Jérôme, oui. Tel jour, on t'invite. Hein? Tu viens manger à la maison. C'est des personnes qui m'ont invité. Je ne leur ai pas dit. Je ne suis pas allé vers eux pour dire j'ai besoin de temps. J'ai rien dit. J'ai rien dit. On a mangé ensemble, je me suis levé, fini de manger, je me suis levé, il était tard, je me suis levé, et là, au moment de me lever, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une main. En vision, j'ai vu une main venir s'étendre sur moi. Et la personne m'a dit, Jérôme, tu restes dans le couloir, je vais dans la chambre et je reviens. Je suis allé dans le couloir, j'ai senti mon cœur battre, et c'est comme s'il y a une voix qui m'a dit, Jérôme, la dame, elle va te donner des sous. Effectivement, elle m'a donné 10 000 francs. Il me restait 20 000 francs. Pas fini. 30 000, hein, pour réparer le décodeur, pour faire venir le technicien. Je vais à la radio Maui. Je parle à la radio Maui comme le matin, 6 heures. Donc, je fais la prière sur la radio Maui. J'ai fini à la radio Maui. Je rentre, à pas péter. Je vais sur mon lit. Je ne sais pas si ce que je vais dire, certains vont se reconnaître. Je rentre dans ma chambre, je me mets sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je ne fais rien. Je n'ai rien envie de faire. Je reste sur mon lit. En fait, quand je voulais faire un peu le paresseux, j'ai dit, Seigneur, non, aujourd'hui, j'ai envie de rester calme. Je n'ai pas envie de prier. Seigneur, je ne vais pas prier. J'ai senti une force venir sur moi. Je me suis levé d'un coup. J'ai préparé mes affaires. J'ai marché. Je suis allé à la Sainte-Amélie, là, où il y a la gendarmerie. Et là, j'ai commencé encore à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de là, il y a 10 000 francs. Il me reste 20 000 francs. Le Saint-Esprit m'a dit, Jérôme, relis-moi Philippiens 4. Yeah. C'est peut-être pas il y a les impôts. Moi, dans ma tête, je me suis dit, encore les impôts.
Oui.
En fin de compte, j'ai pris toutes les lettres, j'ai pris la grosse lettre, j'ai retiré, il y avait 20 000 francs, 30 000 francs. Wow. J'ai dit, tout le monde m'a regardé, j'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, papa, ça y est, on a notre décodeur, ta télé va fonctionner. J'ai prêt, on y va. Voilà. Moi, je sais, quand tu pries le Seigneur, eh bien, il te répond. Moi, c'était une des choses que...
Alléluia, amen.
Voilà, une des choses que Dieu a répondu. C'est important de vivre des expériences avec le Seigneur. C'est ça que Dieu veut, que nous vivons des expériences avec lui.
Je voudrais aussi que tu nous parles d'une expérience qui m'a beaucoup frappée venant de toi. Ce jeune homme qui avait une jambe courte.
Alors, ça s'est passé... c'était une maman.
Une maman.
Une dame. Avec un frère chrétien du côté de Païa, donc ton cousin là, Gilles.
Ok.
Donc nous sommes allés voir une des mamans qui fait partie de sa famille à Pirée, Cité Grand, voilà.
Okay.
Cité Grand, on est allé là-bas.
Ok.
Et il y avait trois personnes, il y avait une mamie. Et au moment où on a prié pour une autre mamie qui avait des problèmes à la colonne vertébrale, et c'est là que ça a commencé. On a prié pour elle. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je tiens à dire ceci, c'est pas Jérôme qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Et donc, on avait prié pour elle avec ce frère. Et à un moment donné, dans mon cœur, ça c'est dans mon cœur, hein, j'ai senti mon cœur battre. J'ai senti le Seigneur me dire, Jérôme, ne prie pas pour son dos, prie pour ses jambes. Alors, dans moi, je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, voilà, ça c'est Jérôme, ben voilà, Jérôme, il doute aussi. Alors, j'ai l'autre qui s'est un peu éloigné, j'ai dit, non, tu t'éloignes pas, tu viens avec moi, si on est mouillé tous les deux. Alors, on l'a mis sur une chaise, on lui a demandé d'étendre sa jambe, ok, comme ça, et en fin de compte, on s'est aperçu qu'elle avait une jambe courte. Ok, une jambe courte. Eh bien, avec ce frère, on a ordonné à la jambe courte de se rallonger. OK. Après, et à un moment donné, la jeune fille avec son vini, qui n'était pas du tout branchée, elle nous fait, mais alors les yeux bien réveillés, bien gros, elle dit, mémé, non, j'ai vu ta jambe s'allonger. Alors la mémé, elle me dit, ah bon? Ben, non, moi et le frère, on a prié, mais on n'a rien vu. Mais elle nous disait, non, j'ai vu ta jambe se réallonger. En fin de compte, sa jambe s'est rallongée. En fin de compte, elle a eu un problème au niveau de sa colonne vertébrale. C'est ça qui a fait que sa jambe, elle était courte, elle a un pied qui est court. Ben, on a prié pour elle, on a ordonné, on a commandé à la jambe de s'allonger. Effectivement, quand elle a commencé à marcher, elle m'a dit, Jérôme, qu'est-ce que je marche bien? Elle a trouvé la stabilité. Mais elle a commencé à bien marcher. Et ça s'est répandu carrément à Tchopo. Hein? Ah oui. Parce que le dimanche, il fallait encore aller prier sur Tchopo. Un jeune, toujours un des neveux un de tes cousins là.
Oui.
Alors lui, il ne croit pas à la guérison. Il ne croit pas. Eh bien, j'ai plus de douleur au dos. J'ai plus mon dos. Eh bien, a été complètement guéri. Eh bien, c'est comme ça. Pourquoi je partage ça? C'est pour rendre la gloire. Un témoignage là, c'est pour nous dire que Jésus est vivant et Jésus guérit. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Hein. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas.
Il est
nous reste très peu de temps.
Oui.
Hélas, j'aurais bien voulu encore d'autres
témoignages,
mais le temps passe tellement vite. Donc, dans cette dernière partie, je vais te demander de laisser un message d'abord à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ensuite aux enfants de Dieu, et s'il nous reste du temps, un message pour tout le monde pour ces temps-ci.
Oui, ok. Ben, j'aimerais dire d'abord un message à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ben, j'aimerais vous dire ceci, hein, je l'ai cité, Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier et éternellement. Il n'a pas changé. Je vous tiens à vous dire ceci. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, que Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement d'un amour qu'on ne peut pas imaginer. Peut-être ce que je dis là, là je suis en direct, hein, vous entendez ces paroles, mais l'amour de Dieu surpasse mes paroles. Peut-être que je n'ai pas tout à fait les mots qu'il faut, mais je tiens à vous dire que Dieu s'intéresse à vous. Dieu s'intéresse à vous et qu'il veut vous bénir et qu'il a un plan pour vous. Donc en ces temps que vous vivez, je ne sais pas ce que tu vis, toi qui ne connais pas Dieu. Je ne connais pas ta situation. Mais je tiens à te dire ceci, c'est que Jésus est là, est présent. Et il veut, comment dire, t'accompagner dans tout ce que tu fais. Peut-être que tu souffres, peut-être que tu es malade, peut-être que tu ne comprends pas les événements qui t'arrivent dans ta vie. Sache que Dieu, eh bien, a toujours les regards sur toi. C'est ce que je voulais dire. Et je vous invite, vous qui ne connaissez pas Dieu, à le chercher, à dire, Jésus, eh bien, viens dans mon cœur, sauve-moi. Et donc le Seigneur va intervenir dans votre vie puisque la parole de Dieu dit « Quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé ». Donc le mot « quiconque », ça s'adresse à toute personne, qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit ton passé, ton cursus, là d'où tu viens. Eh bien, si tu invoques le nom du Seigneur, eh bien Jésus va intervenir dans ta vie. Voilà le message que je voudrais laisser à ces personnes. Après, pour... donc, tu disais...
Les enfants de Dieu.
Les enfants de Dieu. Eh bien, je vais donner un message que le Seigneur m'a donné à moi, oui, depuis janvier.
Okay.
Depuis qu'on a proclamé un temps de jeûne et de prière. Mm. Moi, le message que le Seigneur m'a dit, prends du temps avec moi. Et j'invite les enfants de Dieu à prendre le temps avec le Seigneur. Il y a une parole, c'est écrit dans Amos 4. Verset 5, il est dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Est-ce qu'on cherche Dieu? Est-ce qu'on le cherche réellement? Okay, il y a chercher, chercher, mais est-ce qu'on le cherche de tout notre cœur? Je pense que pour nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, le Seigneur nous invite à le chercher. Je pense que le Seigneur veut avoir un temps de proximité avec lui. C'est ça, c'est ce temps de proximité avec lui, où que tu sois, eh bien, que tu puisses prendre ce temps avec ton Dieu. Parce que Dieu nous appelle à venir vers lui, à le chercher, à le connaître. Moi, ma prière, et je le continue toujours à prier, je dis toujours au Seigneur, Seigneur, je ne te connais pas. Même si j'ai vu des choses, même si j'ai vu la gloire de Dieu, même si encore aujourd'hui, je prie et je fais cette prière, je dis, Seigneur, je veux te connaître. Pas te connaître de manière intellectuelle, pas te connaître parce que je connais tous les versets de la Bible, mais te connaître vraiment de cœur à cœur, connaître vraiment ce Jésus de tout cœur, le connaître. Quand tu parles, tu sais de quoi tu dis, qu'est-ce que tu dis, parce que tu l'as vécu, parce que tu le vis. Et la dernière
Un message pour tout le monde, pour ces temps que nous vivons.
Oui, ben, pour ces temps que nous vivons, ben voilà, donc on sait tous que nous vivons des temps très troublants. Hein, avec tout ce qui se passe, hein. Eh ben, voilà, ben, c'est de regarder à Jésus, fixons nos regards sur Jésus.
Focus,
Jesus, alléluia, c'est Jésus, notre focus, voilà. Et puis aussi, ben, de se préparer,
oui,
dans notre cœur,
à le rencontrer,
hein, ouais, à le rencontrer. Et puis aussi, pour ce grand mouvement de l'esprit qui va venir sur la Polynésie.
Amen.
Et j'ai pas peur de le dire.
Amen.
Dieu va répandre sa gloire dans ce pays. Dans ce pays, le Seigneur va répandre de sa gloire. Mmh. Sur ce pays, sur cette nation. Je suis celui qui suis, le grand Jésus. C'est ça le but. Préparons nos cœurs dans la prière, cherchant le Seigneur pour ce grand mouvement de l'esprit qui vient, qui va venir sur la Polynésie. Peut-être que ça ne sera pas que sur la Polynésie, mais ça sera de manière mondiale, avec tous ces événements, tout ce qui se passe, tous les signes que nous voyons. C'est peut-être le chaos. Il y a peut-être un chaos qu'on voit, mais dans le chaos, Dieu peut faire jaillir quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux. Et c'est ça que je voulais dire à tout le monde qui nous écoute là en cet instant. Que le Seigneur soit béni et je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci à tous. Passez une bonne journée et au mois prochain avec notre prochaine émission. Au revoir, auditeurs et auditrices.
Voilà donc, mes chers amis, vous venez d'écouter une interview avec notre sœur Raï et son invité Jérôme Lee dans l'émission Racontez-moi Dieu dans votre vie.